Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Démarre cette matinée le sourire aux lèvres en luttant contre une certaine morosité et un certain désenchantement provoqué par certains. On est content de commencer une nouvelle semaine. On reste optimiste et on se souhaite le bonjour. Bonjour à vous et l'optimisme commence peut-être par la chanson.
J'ai regardé la misère sans pouvoir la soulager et la haine sans pouvoir la raisonner. J'ai regardé l'horreur sans pouvoir la retoucher et la mort en m'accrochant à ma vie. Aujourd'hui, je vous l'avoue, je me regarde et je ne sais plus qui je suis. Vais-je encore vous faire le coup du petit chanteur qui se rêve la vie? Me voici chanter, chanter l'amour, chanter pour celui qui n'en veut pas. Chanter un jour, vous l'entendrez avec nous, il chantera. Abattu comme un aigle en plein vol. Mais je veux penser malgré tout qu'aucun Dieu n'a demandé que l'on tue pour prêcher sa parole. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul si j'insiste en...
mot sur Radio Plus. Alors, des chansons entre nos rubriques, bien entendu. Aujourd'hui, dans Saltant sur la planète, nous poursuivrons avec Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, sur cette loi anti-gaspi pour laquelle 2020 est l'année de lancement. Et outre l'interdiction progressive des plastiques, eh bien, on va voir apparaître cette année ce qu'on appelle un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques, indiquant si le produit est facilement ou non réparable. Explication donc avec Jean-Louis. Comme d'habitude, nous irons dans le jardin avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Bertrand qui nous sensibilise à la nature et qui nous éduque aussi finalement. Et alors, pour notre troisième intervention, eh bien, j'appellerai à nouveau Véronique Colanda et Thérèse Parsi pour qu'elles terminent ce qu'elles avaient à nous dire sur cette année 2020, année bissextile, je vous le rappelle. Alors la semaine dernière, une très mauvaise liaison nous a empêché de savoir ce que nous pouvions espérer de cette année 2020. Je vous rappelle que Véronique et Thérèse sont consultantes astro-tarot et libraires spécialisées. Alors je vous parlais d'optimisme tout à l'heure. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir s'épanouir pleinement. Et finalement, peut-être que les astres peuvent nous y aider.
Une petite bouffe entre copains, petit plaisir et gros chagrin. Quand l'alcool est aux confidences, que la pudeur prend ses distances. Pour quelque temps se sentir bien, ne plus penser au lendemain. Quand la vie fait des étincelles, quand on la voit plus belle. Vivre les choses simples, des moments légers, se poser juste un instant et se laisser porter par le temps qui passe. Ne pas lui faire face, traverser le présent pour s'en faire un passé. Cette petite lueur attisée par ces petits bonheurs, sourire complice, instant fragile pour se sentir enfin tranquille. Ne plus redouter le silence, se dire qu'on a bien de la chance, marcher encore sans rien se dire, et le temps d'un soupir. Vivre les choses simples comme un rêve éveillé, emporté par le courant, ne plus vouloir lutter. Mais si le temps presse, si la vie nous blesse, maquiller le présent de souvenirs légers.
Sur Radio Plus, Mémo et son chanteur Freddy Holville. Alors notre enquête dans l'air du temps, enquête relayée par le magazine Femina, selon une récente étude, les propriétaires de chiens auraient une relation plus forte et plus épanouie que les autres. Les dog lovers le savent déjà, nos petits amis à quatre pattes apportent leur lot de joie et d'amour quotidien. Seulement de nouvelles recherches viennent de démontrer qu'ils pourraient jouer un rôle déterminant dans la relation amoureuse de leur maître. 21% déclarent même être plus attirés par leur partenaire depuis qu'ils ont leur chien. Ah, cela prouve encore une fois que nos animaux de compagnie agissent comme des liens entre les hommes. Chien ou chat d'ailleurs.
Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Elle s'était mariée, puis s'était séparée. À présent, elle vivait retirée, loin des gens, loin du bruit de ses quelques amis, mais surtout loin des hommes. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Déjà c'était l'automne, la toiture à revoir et le bois à couper. Elle avait beau me dire de ne pas m'inquiéter, je pensais c'est un travail d'homme. De mon côté j'avais pas mal bourlingué, entrevu des amours et fait tous les métiers. J'en avais plus que marre, je voulais m'arrêter. Je suis passé par hasard, nous avons bavardé. Comme c'était le soir et que le froid tombait, elle ne m'a pas chassé. Elle ne m'a même pas demandé mon avis. Elle m'a ouvert son lit pour y passer la nuit. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait pas fait l'amour. Combien de temps avant qu'elle refasse un jour? Elle s'est servie de moi pour se venger de lui. Une fois satisfaite, elle m'a chassé du lit. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Au matin, elle a fait comme si j'étais personne, comme si de rien n'était. Mais moi, je l'aimais déjà, je la voulais tout à moi. Oui, c'est vrai, je voulais être son homme. J'avais vu des pays, je pouvais les lui compter. Je pouvais lui faire l'enfant qu'il ne lui avait pas fait. Je pouvais remonter le mur, je pouvais scier du bois. Je pouvais travailler dur et pas penser qu'à moi. Et subir sans maudire ses multiples morsures. Mettre jour après jour du miel sur ses blessures. Lui montrer que les hommes, c'était pas ce qu'elle croyait. Qu'un amour de jeunesse, c'est pas fait pour durer. Qu'elle n'allait pas gâcher le reste de sa vie. Que tout était à faire, que rien n'était fini. Que dans mes rêves les plus fous, je la voyais pas si belle. Que je comprenais pas tout, mais que j'en savais plus qu'elle. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Déjà c'était l'automne, la toiture à revoir et le bois à couper. Je serais bien resté, la maison était bonne, mais seul, le petit chat m'aimait.
Georges Chelon, qui fêtera son anniversaire avec ses fans ce samedi à Avon. Et bien sûr, on y sera. Voilà, merci à vous d'écouter Radio Plus. Alors tout de suite, bien sûr, nous allons retrouver, c'est Jean-Louis Ouatté, hein, président de l'Extrême Nature, qui ne sort pas ses griffes, mais qui va vous expliquer certaines choses. Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été adopté à l'Assemblée nationale. Alors l'objectif de ce projet de loi, c'est d'entrer dans l'ère du zéro déchet le plus vite possible. Nous allons transformer nos modes de production et de consommation avec des avancées historiques pour par lesquelles la France va à nouveau montrer la voie. Sur l'interdiction des plastiques jetables et l'interdiction de destruction des produits neufs invendus. Alors nous allons accélérer le passage d'une société du tout jetable à une société du tout réutilisable. Et oui, l'année 2020 est l'année de lancement de bonnes décisions avec pour commencer l'interdiction des plastiques à usage unique, thème que nous avons abordé la semaine dernière. Et Jean-Louis, vous nous avez expliqué le bien fondé de cette loi. Et puis toujours dans la même optique de limiter les déchets, donc de moins gaspiller, nous allons voir apparaître un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques, indiquant si le produit est facilement ou non réparable. Alors, d'abord, Jean-Louis, avant que vous ne me répondiez, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs ce qu'est l'économie circulaire.
Oui, alors le thème, c'est si au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait. Donc l'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et puis ainsi limiter tous les déchets qui sont générés. Donc nos modes de production et de consommation actuels, ça correspond à un modèle qu'on appelle linéaire, qui repose sur le triptyque produire, consommer, jeter. Et ce système économique a de graves conséquences sur l'environnement. D'abord, on commence par extraire les matières premières et on sait qu'à ce niveau-là, on arrive à un épuisement des ressources naturelles. Numéro 2, on transforme ces ressources en produits et là, on pollue beaucoup. Troisièmement, ce produit est utilisé de façon éphémère, donc c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et puis quatrièmement, il est jeté, donc on a une accumulation de déchets. Donc pour justement combattre et puis repenser ce système, c'est le concept d'économie circulaire qui constitue donc une alternative prometteuse qui peut répondre à ces enjeux. Alors d'abord, on à chaque étape, on innove. D'abord l'approvisionnement durable. On élabore et on met en œuvre une politique d'achat responsable. On sélectionne les fournisseurs sur des critères environnementaux. On accompagne les fournisseurs dans l'accompagnement de leurs pratiques. Ensuite, à la conception, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est une démarche donc qui consiste à diminuer dès la phase de conception les impacts environnementaux d'un produit ou bien d'un service tout au long du cycle de vie. Et puis l'écologie industrielle et territoriale, c'est la recherche de synergies entre éco-industriels. Bon, à l'échelle, par exemple, d'une zone d'activité, les déchets d'une entreprise peuvent devenir les ressources d'une autre. Mmh. Et puis, économie de la fonctionnalité, c'est une forme d'économie collaborative qui va privilégier l'usage à la possession. Donc, on peut vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Et ensuite, une consommation responsable, consommation raisonnée, orienter les choix en fonction de critères sociaux et écologiques, allonger la durée d'usage. Donc tout ça, c'est l'économie circulaire.
Alors, il y a la dernière publicité de Darty qui dit « Plus de 6 millions d'appareils électroménagers seront jetés en France cette année. Nous n'avons plus les moyens de jeter, réparons. » Alors bon, je vous dis, ça c'est une publicité, mais alors Jean-Louis, ne marche-t-on pas un petit peu sur la tête, On sait tous que les machines qui ne sont pas issues de grandes marques réputées pour leur fiabilité et leur résistance ne sont pas facilement démontables, découlant d'une volonté de réduire les coûts. Alors.
Oui, tout à fait. On est encore en plein, démarche linéaire. On n'est pas du tout dans l'économie circulaire. Donc on lance, des idées, mais il va falloir changer beaucoup de choses. Donc c'est sûr que dans le contexte actuel, la réparabilité, elle est loin d'être facile.
Tout à fait.
Et quand on parle de réparabilité, la question qui vient immédiatement, c'est la facilité de changer une pièce avec un démontage et remontage. Mmh. Et ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi l'approvisionnement en pièces détachées.
Des pièces de rechange.
Il y a aussi la consommation, la documentation. Et alors, le mensuel que choisir a testé, par exemple, il a testé 11 lave-linges. Sur ces 11 lave-linges, ils ont tenté d'obtenir la documentation et puis ils ont démonté une quinzaine de pièces susceptibles de provoquer une panne. Bon, ça peut aller dans ces lave-linges du joint de hublot jusqu'au moteur. Et ils les ont remplacés pour vérifier le bon fonctionnement des appareils remontés. Il faut savoir que sur les 18 éléments les plus susceptibles de lâcher, il y en a quand même des disparités qui sont impressionnantes. Pour le simple, par exemple, changement du joint de hublot, il y a les techniciens qui ont passé 8 minutes sur certains modèles jusqu'à 45 minutes sur d'autres. Le démontage des roulements, par exemple, sur une machine va prendre une demi-heure, alors qu'il va prendre 2 heures sur une autre. Donc les disparités sont énormes actuellement.
Donc on l'a bien compris, il faut des pièces de rechange. Bon, en plus, Celle-ci change pour la plupart tous les 10 ans. Hein. Dernièrement, j'ai lu sur un carton d'emballage d'appareils ménagers, pièce garantie être fabriquée pendant 10 ans. Donc ça veut tout dire. Hein. Et bon, et ça paraît, quand on le lit comme ça, ça paraît être exceptionnel. Et puis finalement, 10 ans, Jean-Louis, c'est quand même peu. Et ouais, c'était, alors là, c'était encore du matériel fabriqué en France. Alors qu'en sera-t-il pour le Made in China? On sait très bien que leur logique, c'est vite acheté, vite cassé et vite remplacé.
Ah bah oui, mais si on veut que cette réparabilité prenne du sens, il faut qu'il y ait un changement radical. Et le problème, il est quand même celui des consommateurs qui privilégient pour l'instant le prix. Hein. Donc il faut améliorer la réparabilité, mettre à disposition des pièces détachées. Il faudra savoir que ça a un coût. Ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Donc on peut craindre que les pièces détachées soient vendues quand même assez chères pour amortir l'investissement qui est réalisé par les entreprises pour rendre réparables les produits. Hein. Après, il faudra faire attention que les pièces détachées ne soient pas vendues à des prix différenciés selon que l'opérateur appartienne ou non au réseau agréé de la marque. Et puis la réparabilité, c'est pas de loin le seul problème. Il y a aussi les consommateurs, il y a l'obsolescence esthétique, hein, qui est aussi appelée psychologique ou culturelle. Bah, c'est lorsqu'une entreprise présente en peu de temps un nouveau produit qui est vanté comme plus performant dans ses campagnes promotionnelles, plus esthétiques. Et donc, évidemment, il y a l'effet de mode. Hein. L'effet de mode, donc on change son appareil alors qu'il marche encore très bien. Yes. Ensuite, il y a l'obsolescence qu'on appelle logicielle. C'est par exemple, mon ordinateur n'est plus compatible. On va donc mettre en place une nouvelle version d'un logiciel ou d'une application qui va rendre désuète l'ancienne version et qui sera incompatible. Donc forcément, on va devoir changer son ordinateur ou son smartphone. Et donc, alors qu'il fonctionne encore très bien. Donc tout ça, c'est un problème de consommation, c'est un changement complet de mentalité.
Et puis aussi exiger, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, une notice d'utilisation hein, avec le prix des pièces, action de réparation, le code d'erreur, etc. Et puis, pas en anglais, s'il vous plaît.
Oui, il y a toute la documentation. Voilà. Il faudra aussi que ces pièces puissent être remplacées avec des outils courants et non des outils propriétaires. On sait très bien qu'on se retrouve quelquefois, ce soit dans la voiture ou dans un autre matériel, il y a une vis à défaire et il y a une clé spéciale, il faut des clés spéciales. Et donc on n'est pas capable de le faire alors que c'est très simple.
Alors produire durable, donc on l'a compris, est le nouveau défi, Jean-Louis. Alors je n'ai pas l'impression que cela va être facile.
Hein. Mais ça va pas être facile parce que c'est un chantier qui est très ambitieux.
C'est un chantier qui risque d'être...
Je l'ai dit tout à l'heure, en premier sur la question des prix des pièces détachées. Hein, ça c'est important. Et puis il faudra aussi aborder la question du contrôle des fabricants le problème de mettre en place des règles, encore faut-il vérifier si elles sont appliquées. Or malheureusement les contrôles pour l'instant sont inexistants.
Alors justement en parlant de contrôle, pour ce chantier qui risque d'être laborieux, y a-t-il des avancées législatives dans ce sens?
Oui, l'Assemblée nationale s'est prononcée là en décembre 2019 à la quasi-unanimité en faveur de l'obligation à partir de 2021 d'un indice de réparabilité des produits électriques et électroniques dans la loi sur le projet de loi sur l'économie circulaire. Mais attention au piège des distributeurs, hein, parce que justement on voit par exemple une marque d'électroménager qui ajoute une nouvelle pierre à son contrat de confiance, hein, et qui est facturé 9,99€, donc 10€ par mois, qui est censé couvrir la réparation de tout le gros des électroménagers du foyer, qui est acheté ou non chez ce distributeur, tant que les pièces détachées sont disponibles. Mais il faut aller regarder, il faut aller voir que ça se complique nettement si ça a été acheté sur la marketplace de ce qu'on appelle la marketplace du distributeur. Ça veut dire qu'il propose des produits qui en fait sont vendus par un autre distributeur et que là, la le contrat ne fonctionne pas, donc méfions-nous, parce que on sait très bien que quand on va dans des magasins d'électroménager, on nous propose des tas d'assurances, de contrats, etc. Et donc, il y a beaucoup de pièges derrière. Hein.
Tout à fait, là, c'est, oui, beaucoup de pièges. Alors justement, bon, pourtant réduire nos déchets, hein, la Terre n'en peut plus, on le sait, faire réparer, c'est faire baisser l'émission de carbone. Vous l'avez évoqué en début,
ah, oui.
en début
ah,
de cette rubrique.
Oui, en termes de bilan carbone, hein, faut
bien
savoir
sûr.
Que si le linge tombe en panne au bout de 5 ans et qu'on le répare en installant une nouvelle pompe, on diminue l'émission de carbone de 105 kilos de carbone. Et le fait de faire passer l'ensemble du parc français de lave-linge de 11 ans de durée de vie à 10 ans, ça permet d'économiser 545 000 tonnes d'équivalent carbone. Donc c'est pas loin, c'est pas négligeable.
Alors en tout cas, Jean-Louis, ce qu'on peut dire pour avoir mettre une note d'optimisme, finalement le métier de réparateur qui était devenu un petit peu obsolète va redevenir peut-être un métier d'avenir.
Ah bah tout à fait, hein. Je pense qu'il y a de la place pour justement les réparateurs, et je pense qu'il y a déjà justement des gens qui se sont lancés dans ce créneau et de manière intelligente et efficace.
Voilà, merci Jean-Louis pour cette analyse, on se dit à lundi prochain.
À lundi prochain, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un marmot. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi, un PC pour elle et moi.
Quand on se Facebook, c'est sympa.
Un troisième pour la gamine, bah oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur en 4 coups durs, car comme dit l'autre,
si le client est roi, il a le droit d'être le roi des.
Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a peut-être fait perdre la tête. Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes,
depuis je me sens mieux dans ma tête.
147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Dernier best-seller conseillé par ma belle-sœur, le live intégral de Johnny en Blu-ray haut défini sur mon bel écran plasma, le Stade de France chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça.
Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil.
Que tout ça tienne dans mon cercueil, jusqu'au bout, jusqu'au trognon, car c'est à moi. Jusqu'au bout, jusqu'au trognon, rien qu'à moi.
Les petites nacelles sur Radio Plus. Alors, pour aller travailler dans son jardin, pas besoin de tout cela. Il faut finalement que quelques bons outils dont il faut prendre soin pour que justement ils durent toute la vie. Et ce n'est pas Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, qui va nous dire le contraire.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs. Et en plus, je vous souhaite à tous une très très bonne année.
Alors le dicton dit, janvier est un temps de repos, le froid et la pluie empêchant les travaux. C'est un dicton français, mais on a vu la semaine dernière avec vous Bertrand, qu'en fait ce n'est pas le travail qui manque pour tout bon jardinier. Et une bonne culture se prépare. Et justement, parlant de préparation, surtout, on n'oublie pas de pailler avant que n'arrive février. Février qui est considéré quand même comme le mois le plus froid de l'année en principe. Alors peut-être pailler les jeunes arbres déjà.
Oui, alors tout à fait. Février, c'est vraiment le froid le plus mauvais. L'hiver est plutôt clément. On pourrait même dire que c'est anormalement chaud quand on voit les températures en ce moment. Mais cela peut changer. Il n'y a qu'à se souvenir qu'en 2012, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'y avait pas encore gelé en fin janvier. Et le 2 février, il a fait moins 17. Donc il y a beaucoup de rosiers, d'arbustes qui ont souffert et beaucoup ont péri d'ailleurs. Alors oui, si ce n'est pas encore fait, on peut pailler les jeunes arbres. On peut également pailler les pieds d'artichaut, si vous ne l'avez pas encore fait. Les pieds des actinidia, qui fournissent les kiwis, qui donnent les kiwis, surtout s'ils ont moins de 5 ans. Et puis si vous avez le temps de buter les rosiers, en ramenant de la terre sur 15 à 20 cm au pied du rosier, ça va les protéger d'un gel intense. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis au printemps, bien sûr, il ne faut pas oublier d'enlever cette butte. Alors, peut-être que l'hiver va rester clément jusqu'au printemps, on ne sait pas. Hein, mais au moins, on aura fait ce qu'il faut si jamais il arrive de fortes gelées, et puis vos plantes souffriront beaucoup moins. Donc oui, on peut pailler et buter.
Tout à fait, vaut mieux de toute façon, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas?
Exactement.
Et puis alors, on peut justement étaler le compost. Alors Bertrand, j'ai eu une question. Si le compost n'est pas encore bien terminé, peut-on quand même l'utiliser?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle pas encore bien terminé. Un bon compost, c'est pas du terreau. Hein. Un compost qui est arrivé à l'état de terreau, bon, on va le mélanger au sol, ça va améliorer la structure du sol, mais ça n'apportera pas beaucoup d'éléments nutritifs. Mais pour moi, un bon compost, c'est un compost qui est bien décomposé, mais qui est encore grossier, avec des particules non encore complètement décomposées. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les pendre sur le sol. Alors, on va pas l'enterrer, hein, mais après avoir aéré le sol en ce moment, ou si c'est déjà fait à la grelinette, on le dépose en surface. Et puis, tous les macro-organismes, micro-organismes du sol qui sont vivants dans le sol vont s'en nourrir, l'incorporer à la première couche de terre. Ça fera un bon humus, ça fera une bonne nourriture pour nos plantes. Et au printemps, un petit coup de griffe, et puis on peut semer nos graines.
D'accord. Alors, donc, bon, bah, la question, c'est presque oui, finalement.
Donc... Oui, s'il n'est pas décomposé complètement. Il ne faut pas qu'il soit non plus pas décomposé du tout.
Alors, oui, bien sûr, oui. Il ne faut pas, que ça devienne un tas de fumier, quoi.
Alors,
je n'ai pas de serre, Bertrand, mais puis-je déjà semer quelques graines dans le potager?
Oui, alors, c'est vrai que les températures clémentes nous donnent envie de commencer les semis à l'extérieur. Hein. Alors, c'est vrai également que les anciens disaient qu'en seconde moitié de janvier, on pouvait jeter la graine de la salade goth, hein, par exemple. Même s'il y a de la neige, on jetait dessus, elle finirait par germer tranquillement, sans aucun problème ou dégel. Alors, personnellement, je pense qu'en période hors gel, on peut peut-être mettre des fèves en ce moment, les en tirer à 5 cm de profondeur, puis les recouvrir d'un voile de forçage. Mais franchement, moi, je me précipiterai pas maintenant, hein, le sol est encore froid et parfois gorgé d'eau. Alors surtout nous, il est gorgé d'eau dans nos terres argileuses, hein, donc on peut même pas y aller. Alors, toutefois, en fin janvier, on peut quand même planter de l'ail, des oignons, quelques échalotes et tout ça pour en avoir de bonne heure. Mais par contre, on peut, à l'intérieur, commencer à effectuer les semis en godet, bien sûr, bien au chaud. Hein. Mmh. Et là, il n'y a pas de problème. À l'extérieur, moi je dis, attendez quand même un peu quand même.
D'accord. Alors une question, Bertrand, question d'une auditrice qui dit avoir sur sa terrasse un camélia qui est en bouton depuis déjà 3 mois, des boutons qui ne s'ouvrent pas pour laisser apparaître les fleurs. Alors est-ce normal, docteur?
Alors c'est vrai que les camélias restent longtemps en bouton, et puis les boutons finissent par s'ouvrir, et puis on a de très très jolies fleurs. Mais il arrive parfois que les boutons ne s'ouvrent pas et finissent par tomber. Alors ça, c'est souvent dû à un manque d'eau. Alors, à un manque d'eau au printemps et en été. Donc, il est impératif de ne pas laisser la terre s'assécher pendant ces périodes-là. Donc, vous devez arroser pendant le printemps et l'été. Les camélias doivent être plantés dans un substrat acide, hein, mais surtout pas uniquement dans de la terre de bruyère. Il faut la mélanger de la bonne terre de jardin et puis la mélanger encore avec du terreau très riche en nutriments. Hein. Et puis, il faut une exposition à l'ombre légère, hein, ça lui convient très bien, mais avec un peu de lumière. Alors, je me répète, hein, surtout pensez à arroser, à amener un peu d'engrais organique, sinon vous n'aurez jamais de beaux camélias.
D'accord.
Alors, et encore une chose, là c'est dans un pot, mais si vous le mettez à l'extérieur, le trou de plantation doit être à peu près à 30 cm de profondeur, 35 cm de profondeur. Par contre, il doit être un très large en diamètre, 1 mètre, 1 mètre 20. ton métrage tu sois sur 1 mètre, 1 mètre 20, parce que les racines vont se multiplier en surface plutôt qu'en profondeur.
Voilà, bon, ben. Alors, d'autre part, Bertrand, un peu partout en France, les jardins potagers urbains sont en plein essor. Ils poussent sur des balcons, sur des terrasses. À Paris, on en trouve même sur les toits des hôtels et des entreprises et jusque dans les lieux les plus insolites. Alors, l'agriculture urbaine aurait-elle un avenir ?
Alors, c'est vrai qu'effectivement, on voit de plus en plus de jardins s'installer sur les toits d'entreprises ou d'immeubles, hein, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. Hein. Mais même si je trouve la démarche qui est excellente, hein, ce ne sera jamais une agriculture urbaine. De plus, on pourra jamais l'envisager sur tous les toits, parce que certains toits ne pourront pas supporter les bacs de terre, surtout quand ils sont gorgés d'eau et tout ça. Hein. Mais ce maraîchage, parce que c'est pas de l'agriculture, c'est plutôt un maraîchage, va privilégier les circuits courts. On cultive sur certains toits d'entreprise, les légumes récoltés, si tout cueilli, ils sont déjà vendus aux employés, donc on peut pas beaucoup plus court. Hein. Alors toutefois, si tous les toits de Paris pouvaient quand même se transformer en jardin, ils pourraient durer que 12% des besoins. Alors, ceci dit, c'est toujours un complément, mais on est loin d'être une agriculture urbaine qui pourrait ravitailler tout le monde.
D'accord.
Alors, il y a quand même certaines villes en Angleterre qui mettent à disposition des riverains, alors pas les toits, même si les toits peuvent être cultivés, mais toutes les parcelles de pelouse susceptibles d'être transformées en jardin, eh ben, ils les mettent à disposition des riverains pour en faire des jardins. Mmh. Donc moi, je trouve quand même que peu à peu, les mentalités changent. Donc c'est une bonne chose.
Je croyais que vous alliez dire si tous les toits de Paris pouvaient se donner la main. En tout cas, c'est vrai que chacun peut s'y mettre individuellement, hein, et j'en ai connu qui faisaient leur petit jardin au pied de leur immeuble dans le but tout simplement de partager les légumes. Ça aussi, c'était de bonnes initiatives. Alors, pour tous ceux qui veulent s'y mettre et qui ont envie d'apprendre, on peut peut-être redonner les coordonnées de votre association, Bertrand.
Oui, alors, nous, on donne des cours de jardinage à nos adhérents. Hein. Cette année, même, je donne des cours de jardinage dans une communauté de communes d'Audouic, où on m'a demandé de donner des cours de jardinage. Alors, le jardinage traditionnel, on fait la culture par rapport à la lune, la permaculture, la biodynamie, l'électroculture, etc. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent nous joindre ou nous rejoindre, hein, vous pouvez toujours taper PJH dans un moteur de recherche, hein, par exemple dans Google, et vous aurez accès à notre blog, et là, vous aurez accès à tout ce qu'il faut.
Voilà. Merci Bertrand pour votre analyse. On se dit à lundi.
À lundi, Martine.
Merci. Très, très bonne semaine à vous.
Bonne semaine à tout le monde. Hein. Au revoir.
Wally, 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 بهموم الدنيا توالي.
Tiens-moi la main, petite fleur, usons nos pieds sur le bitume. Allons faire le tour de nos cœurs et de nos vies qui se consument. Du quartier, du bois et du reste.
Wally, 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 بهموم الدنيا توالي.
Auprès de toi, mille douceurs, portant ton petit poids de plume, j'ai souvent calmé la douleur de tes tracas, bobos ou rhumes, des soucis dont je te déleste. Bien sûr, tu m'as donné sans l'heure, oui, bien sûr, ensemble nous eûmes plus qu'il ne fallut de douceur pour anéantir l'amertume de notre vie simple et modeste. Sonnera l'heure, comme pour ton père, je présume, de te voir partir, âme sœur, au bras d'un garçon qui assume de savoir que je le déteste. Pauvre père jardinier en pleurs, mon âme triste qui s'embrume. Petite fille, petite fleur, ainsi notre vie se résume, des joies, des peines et quelques gestes. Tiens-moi la main, petite fleur.
Petite fleur, c'était les ogres de Barbac sur Radio Plus. Alors nous étions hier le 12 janvier et il s'est passé des choses. Thérèse Parcy et Véronique Colanda, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour tous les auditeurs.
Alors je rappelle que vous êtes astrologue et spécialisée en développement personnel et en tarot. Alors la semaine dernière, malheureusement, un problème d'ordre téléphonique ne nous a pas permis de vous entendre jusqu'au bout sur ce que nous réserve cette année 2020. Alors on continue si vous le voulez bien. Alors j'ai déjà retenu que le 12 janvier, c'est-à-dire hier, un nouveau cycle a commencé dans le signe du Capricorne et ce pour une durée de 38 ans. Et vous avez ajouté dans un climat chaotique, car tout ce qui n'est pas juste doit se détruire pour se reconstruire. Une phrase un petit peu angoissante, dites-moi. Alors, vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, Martine. Alors, bien sûr, ce nouveau cycle va pas se mettre en place en un jour, hein, parce que c'est deux planètes lourdes. Donc, on voit bien déjà depuis quelques années qu'on ne peut pas continuer à vivre dans la consommation à outrance, qu'il faut penser à partager davantage. Donc, vous voyez, Saturne-Pluton, c'est ça. C'est-à-dire que chacun doit compter sur ses propres forces. Mmh. Hein, arrêter d'avoir peur, de se laisser polluer, et puis arrêter d'être fatigué. Se recentrer pour voir vraiment ce qu'on a au fond de soi. Mmh. C'est vraiment ça qui est important, et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation, mais plutôt réfléchir, se poser, ralentir comme vous nous l'avez écrit, Martine, et puis surtout c'est se respecter.
Mmh. Et puis vous nous avez parlé aussi de grands changements, dans quel domaine par exemple ?
Alors ça va être dans le domaine social, environnemental, individuel aussi forcément, puisque l'apport de la technologie nouvelle, par exemple dans le domaine du travail, regardez depuis quelques années, moi je dirais depuis 2008, l'entrée de Pluton en Capricorne nous a sensibilisés. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail, donc dans leur quotidien ça a changé le regard, donc ça nous permet aussi d'autres orientations.
Mmh. Alors, beaucoup de personnes vous consultent pour un mieux-être. Je rappelle que vous n'êtes ni dans les prédictions, ni dans l'horoscope. Alors, comment arriver à un mieux-être, soit par les astres ou alors par le tarot ?
Alors, grâce à notre librairie et à diverses activités qu'on propose par de nombreux échanges, nous pouvons constater que l'astrologie et le tarot sont deux outils vraiment pour se découvrir, mais qui sont encore très méconnus à ce niveau-là. Et c'est au niveau vraiment de l'échange avec la personne et différentes techniques que les gens permettent de mieux se comprendre. Et je voulais revenir aussi la semaine dernière, j'ai dit qu'en fin d'année, ça allait être le cycle Pluton-Saturne, mais c'est le 21 décembre, c'est le cycle Jupiter-Saturne qui pendant plus de 200 ans a été dans le signe de Terre, et à partir donc de la fin d'année décembre 2020, il va passer en air. Et Jupiter et Saturne, ce sont vraiment le duo de socialisation.
D'accord. Alors bien sûr, bon, je suppose que, d'après ce que vous me dites, à vous écouter d'abord les personnes qui vont vous consulter, écoutez, oui, il y a plein de personnes dont le premier rôle est d'écouter. Il y a les sophrologues, les phytothérapeutes, conseillers, relaxologues, et j'en passe bien d'autres. Mais comment accompagnez-vous ces gens avec les astres en toile de fond ?
Alors, nous, la personne, quand elle nous contacte, on a besoin de trois éléments. La date de naissance, l'heure de naissance et son lieu de naissance. Et avec ces trois éléments, on dresse ce qu'on appelle le thème astral, le passeport intérieur, si vous voulez. Et donc, on a cet outil pour accompagner la personne. Et nous, bien sûr, on prépare déjà le travail. Mmh. Hein, parce que, vous savez, l'astrologie, c'est comme toutes les sciences, comme le français, comme les mathématiques, ça s'apprend et ça demande beaucoup d'investissement personnel. On ne peut pas dire n'importe quoi.
D'accord.
Et pour le tarot, eh ben c'est à travers l'image. Donc nous, on l'utilise aussi. C'est plein de symboliques. Donc tout le monde, la personne quand elle est là, on travaille d'abord l'instant présent parce que la carte révèle ce qu'on a à l'intérieur. Et donc chacun ressent, et puis la difficulté c'est d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à l'observation. Mmh. Donc nous on est là pour aider.
Tout à fait, d'accord. Alors, bon, vous nous l'aviez rappelé tout à l'heure, en tout cas, il paraît que il faut que les gens apprennent à ralentir, le mot d'ordre. Ne pas confondre vitesse et précipitation, vous venez de le dire. Alors, je suppose ralentir le réchauffement, mais aussi la cadence à laquelle nous consommons et nous vivons. Alors, ce serait quand même formidable si cette année 2020 pouvait nous réapprendre à rêver, à flâner et à contempler.
Alors, c'est sûr que le nouveau cycle Saturne-Pluton en Capricorne et puis Uranus en Taureau, donc ceux qui sont quand même deux signes d'éléments terre, ils font prendre le temps et laisser notre génie intérieur de se révéler. Il faut oser bousculer nos habitudes, chose que le Taureau n'aime pas trop, ainsi que l'Empereur, hein, qui reste, ils sont assez fixes, assez rigides. Mmh. Donc il faut accepter de moduler, d'oxygéner et d'aller de l'avant. Il y a surtout nos habitudes alimentaires, poser un autre regard sur tout ce qui nous entoure et à chaque instant pour s'épanouir. Et surtout aujourd'hui, il y a des prises de conscience. Et ça, le cycle Saturne-Pluton, on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus consommer pareil. Alors chacun dans son thème, comme Thérèse vous l'a exprimé, ces cycles, ces positions de planète touchent des domaines de notre existence. Et c'est en ça que chaque individu, parce qu'on est unique, et par rapport au cycle, on a des prises de conscience très importantes. Et l'empereur, quand on dit 2020, il y a d'abord une prise de conscience, un recul par l'arcane de la papesse, puis nous avons le 20, qu'on entend le 20, qui correspond à la symbolique du jugement. Alors le jugement, ce n'est pas être jugé, mais c'est prendre connaissance, donner du sens par rapport au collectif et par rapport à la vie de chacun.
Alors, je rappelle, parce que bon, peut-être que ça paraît complexe à certains ou un petit peu compliqué.
Oui, probablement.
Je rappelle que vous vous tenez à disposition de ceux qui le désirent. Allez, dites-nous tout. Qu'offrez-vous au public? Une écoute, on l'a compris, mais aussi des consultations,
oui,
des activités.
Alors nous, on dit souvent entretien personnalisé.
Oui.
Comme ça, vous voyez, c'est plus dynamique. La personne, elle est acteur de l'échange.
Tout à fait.
Nous, on l'accompagne et la personne garde son libre arbitre, que ce soit en astrologie, en tarot. Après, on travaille beaucoup avec la Lune, on fait des ateliers pleine Lune, des ateliers nouvelle Lune, parce que la Lune, c'est notre vie au quotidien.
Mmh.
Donc ça, c'est aussi important, c'est la source de la vie. Et bien sûr, l'astrologie et le tarot, expliquer ça en quelques minutes, c'est complexe.
Bien
comme
sûr.
Vous dites, Martine. Donc voilà, et puis au sein de notre librairie, on donne du conseil à qui pousse la porte, on discute, on conseille, alors des livres, on a des livres d'astro, de méditation, de tarot, même pour les enfants qui se développent énormément.
Donc, vous pouvez peut-être nous redonner vos coordonnées?
Oui, alors la librairie, elle est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h, notre téléphone c'est le 03 59 51 68 40 et nous avons une page www.librairielemondeduranie.com et on a une page Facebook. Quand on tape librairie Le Monde d'Uranie, on tombe dessus facilement.
Alors vous êtes situé à Lille, hein, rue Roger Salengro.
24 avenue du président Kennedy.
Ah, pardon.
On est dans le quartier Saint-Sauveur, pas très loin de la mairie de Lille.
Voilà.
Et puis de la rue maintenant, qui c'est anciennement rue de Paris et qui s'appelle la rue Pierre-Mauroy.
Oui, donc je faisais erreur, c'est donc avenue du président Kennedy, à Lille.
C'est ça. Et pas très loin de la gare, pas très loin des transports, on est vraiment facile d'accès.
Voilà. Thérèse Parcier, Véronique Hollanda, merci à vous. Et nous allons essayer d'exploiter au maximum donc nos potentialités, car finalement c'est de cela qu'il s'agit. Et puis lorsqu'on se connaît bien, et c'est surtout à cela que doit conduire l'astrologie à mon sens, nous pouvons faire évoluer et modifier notre comportement au fil des années. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Thérèse et Véronique, l'astrologie sert à savoir ce que nous pourrions être si nous étions conscients de toutes ses potentialités, et c'est sans doute à cela que vous aidez les gens bien se connaître et aussi à savoir à quel moment on peut développer certaines qualités.
Et surtout l'amour, s'aimer pour partager, pour échanger. Arrêtons de juger, arrêtons d'avoir peur.
Tout à fait. Merci Véronique, merci Thérèse.
Merci Martine et merci les auditeurs de nous avoir écoutés.
À bientôt.
À bientôt.
Si tu es différente de tous ceux qui s'accrochent au tarot, au bon Dieu, l'horizon n'est pas loin, tu en verras la fin. Tu iras mieux.
Surtout de l'espoir, eh bien, il en faut, et des rêves aussi, pour, pas toujours pour les réaliser d'ailleurs. Mais qu'importe, il faut rêver. En tout cas, je vous souhaite une très bonne matinée. Si vous avez envie, vous pouvez rester avec moi pour cette prochaine heure. Musique et bonnes chansons au programme avec Kaléidoscope. Sinon, bye bye à vous.